Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, aujourd'hui mardi, vous avez passé un long week-end. Eh bien aujourd'hui, on va vous raconter des histoires. Mon Dieu, que j'aime ça, je suis contente. On va recevoir Marie-Josée Robitaille, qui est directrice des communications et du marketing chez Pointe-Calière. Et puis dans le cadre du 30e anniversaire de l'institution. Et on va parler également du balado Raconter Montréal. Et après, on aura Mathieu Tessier qui est avec moi en studio. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Et lui sera là pour sa chronique La toponymie d'un accentué. Et les histoires vont continuer.
Oui.
Aujourd'hui, installez-vous bien et puis rêvez, écoutez et rêvez. Voilà. Pour l'instant, on part avec Robert Charlebois qui nous chante Je reviendrai à Montréal.
Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendu droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre, où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal, écouter le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs des rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons clairs. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal me marier avec l'hiver, me marier avec l'hiver.
Et voilà, donc c'était Robert Charlebois qui nous chantait « Je reviendrai à Montréal ». Et là, à Montréal, on y est avec l'histoire et avec Marie-Josée Robitaille. Bonjour Marie-Josée.
Bonjour Madame Farah.
Oh, quelle horreur. Appelez-moi Arlette. Madame Farah, non mais ça va pas.
J'ai été élevée comme ça, vous savez.
J'essaie de la convaincre depuis deux ans qu'on travaille ensemble.
Mais là, j'ai dit qu'est-ce, il y a un inconnu ici dans le studio? Non. Donc, on va se raconter des histoires. Oh, c'est tellement beau. Alors, bon, on va parler, bien sûr, de Pointe-à-Calière. Et c'est tellement beau, ce balado Raconter Montréal.
Merci.
Je me suis éclatée en écoutant ça. Et je peux aller un petit peu dans tous les sens et commencer d'abord par ça, avant de parler de Pointe-à-Calière et faire des... dans mon questionnement. Alors, j'ai écouté le balado Raconter Montréal et j'ai écouté les balados, donc l'histoire de savoir quand ils sont arrivés, les légumes qui poussaient sur cette terre-là, ceux qui ont amené les Français, ceux qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, toutes les aides qu'ils ont eues des Premières Nations. Enfin, c'est formidable. Et l'audio qui est venu me chercher, que j'ai trouvé extraordinaire, c'est celui des femmes qui est faite sur trois femmes.
Oui, trois pionnières à découvrir.
Oui. Ah là là. Alors là, Isabelle Monbeau, c'est ça?
Isabelle Monteau.
Extraordinaire, femme extraordinaire.
Oui, femmes... en fait, très peu connue, hein,
oui.
Isabelle Montour, c'est notre charmant guide animateur Frédéric Parent qui a fait un peu de recherche, évidemment, historique sur différents personnages. On en a plusieurs dont on parle dans nos expositions temporaires ou permanentes, mais évidemment, on ne parle pas de tout le monde. Et cette fameuse Isabelle Montour, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle était métisse, donc mère Anishinaabe et père français d'origine. Donc, elle est une Canadienne, elle est née ici, mais elle va avoir un dessin assez particulier, assez rare, en fait. Elle va jouer un rôle de diplomate entre les différentes nations autochtones et les autorités françaises, britanniques.
Et anglaises aussi.
Ah, oui, exactement.
Et anglaises, j'ai bien écouté l'histoire. Elle est impressionnante parce qu'aujourd'hui, quand on pense, puis j'étais assez de l'avis de l'animatrice, Émilie, parce que on s'imagine que les femmes n'avaient pas... On s'imagine comme une époque où les femmes n'ont pas de pouvoir du tout, alors que là, elle a mené sa barque, mais en femme libre, sans avoir peur de le dire, c'était extraordinaire. Mmh. Et là-dedans, on parle de trois femmes, Marie-Madeleine de Verchères, à 14 ans, elle arrive à défendre un fort. Non, mais c'est un truc de fou, 14 ans, c'est l'âge où on a à peine fini de jouer à la poupée, qu'on continue à écouter de la musique et à...
Mais vous savez, les trois dames dont on parle dans ce balado, Madame de Verchères est certainement la plus connue. Celle qu'on pense qu'on connaît le mieux. Mmh. Et à travers le balado, on réalise que peut-être qu'on a des idées préconçues et que ce n'est pas tout à fait juste les idées qu'on en a. Et c'est-à-dire que oui, elle a défendu le fort, etc. Mais il y a tout un mythe qui va se construire autour de cet événement-là qui va arriver a posteriori aussi. C'est-à-dire que les faits sont réels, mais toute l'image qu'on va prendre, elle va devenir une femme symbole, si je peux aller jusque-là. Donc, une héroïne qui va prendre, faire partie de l'identité québécoise
Elle va être reconnue. Ben, elle, son nom était un petit peu plus connu. Mais Agathe de Saint-Pierre, c'est ça?
Oui, Agathe de Saint-Pierre.
Alors là, c'est extraordinaire.
Extraordinaire.
Moi, cette histoire, j'étais affolée. Je me disais, ah, c'est trop bien.
Oui, non, c'est une femme qui se retrouve veuve, qui prend la relève, elle doit nourrir plein d'enfants, donc elle a besoin de gagner sa vie, hein, et elle va développer
Elle dirige les seigneuries de son mari, qui est militaire, donc il n'est jamais là. Elle fait de la comptabilité. Elle monte une fabrique de tissus à un moment donné où on ne peut pas en recevoir de France. Il y a un problème pour en recevoir de France. Elle s'arrange pour avoir une autorisation du roi de France. C'est hallucinant.
Pour utiliser des matières premières autochtones.
Oui, se servir de ce que faisaient les autochtones.
Importer donc les métiers à tisser, et elle va recruter des tisserands parmi les prisonniers pour les faire fonctionner, parce qu'on n'a pas la main d'œuvre pour le faire.
C'est incroyable.
Et ça, c'est tout près du musée, hein. Cette dame habitait dans le Vieux-Montréal, évidemment, à quelques pas du musée.
Hallucinant, c'est l'histoire. Puis quand on lit, mais vraiment, enfin, je vais dire, on est très mal informé, en tout cas, moi, sur l'histoire de Montréal, mais je ne dois pas être la seule, parce que plus j'en écoutais, plus je disais « Oh mon Dieu !» Savoir déjà que chez les femmes autochtones étaient maîtresses de leur vie sexuelle, égales à l'homme. Ça me fout des frissons quand je le lis, quand je vois qu'en 2022, on n'est même pas foutu de l'aide.
Oui, je pense que ce qui est intéressant aussi dans cet épisode-là, et en fait dans toute la nouvelle série des 5 épisodes qu'on a mis en ligne tout récemment, c'est qu'on a invité des personnalités contemporaines, qui ne sont pas nécessairement des historiens, à écouter le balado qui se déroule donc entre un spécialiste du musée et Émilie Bibeault, la comédienne. Ils écoutent l'échange et ils commentent de leur point de vue néophyte, si j'ose dire, quelle flamme ça éveille d'entendre ça, quel est leur intérêt. Pour les trois premières, on a invité Rosemée Autonté-Morin, vous savez comment elle se préoccupe de la condition des femmes, de la façon dont elle en parle.
Elle est passionnée et passionnante.
Oui, donc je trouve que ça amène une petite touche de plus. Donc, on a l'histoire qui est racontée par nos spécialistes, mais ça nous fait un lien avec le monde d'aujourd'hui et ce que ça nous apporte à nous aujourd'hui de savoir ça.
Ah, puis aussi l'histoire de la nourriture, comment ça s'est passé, comment ils ont vécu. On apprend aussi que, enfin, je ne veux pas tout raconter, il faut écouter, mais c'est bien mieux de tout écouter. Mais je veux dire que les Français, quand ils sont arrivés, le pays était froid, mais en fait, ils n'avaient pas idée du froid que ça pouvait être. Donc, ils n'étaient pas non plus...
C'est
pour ça, donc, il y a eu un apprentissage qui leur est venu des Premières Nations aussi, des gens des Premières Nations qui leur ont appris des choses, qui leur ont donné des choses aussi.
Oui, exactement, parce qu'en fait, ils ont apporté des végétaux, mais pas juste des végétaux, ils ont apporté des animaux, etc., des animaux d'élevage, des cochons, des poules, etc. Ils ont apporté des plantes, mais ils ont apporté des semences de plantes. Mais ils ont plusieurs, on a découvert dans ce caveau à légumes, donc qui avait été, dans le fond, scellé par des couches d'occupation sous le fort de Ville-Marie. Il a été découvert par hasard par nos archéologues. Ils ont trouvé des semences donc indigènes en quantité assez importante et ce dont on n'avait pas idée. Parce que vous savez, tout ce qui est organique comme ça disparaît beaucoup plus facilement que, par exemple, des ossements d'animaux. Donc, on sait ce qu'ils mangeaient au niveau animal. On trouve des arêtes de poissons, mais on ne trouve pas de plantes nécessairement. Donc, si ça n'a pas été écrit relaté dans les écrits, on ne sait pas exactement. Mais là, on a trouvé donc une plus grande diversité et une plus grande utilisation des plantes médicinales ou comestibles qui venaient de l'héritage autochtone.
Ah, mais c'est absolument fascinant.
Exact. Et Colombe,
c'est quoi? Je les ai pris les uns derrière les autres, et même pas seulement parce que je devais faire l'émission, pour le plaisir d'écouter l'histoire.
Ça me fait plaisir d'entendre ça.
Ah oui, c'est vraiment bien. Bravo.
Merci.
C'est une belle, belle idée. Puis j'ai lu votre... comment je peux appeler ça, un petit catalogue, enfin le spécial anniversaire là, de Pointe-à-Calière, les 30 ans d'histoire.
Oui.
On va parler, on va faire une pause musicale, mais après la pause musicale, j'aimerais qu'on parle de Pointe-à-Calière, puis des découvertes historiques, archéologiques qui ont été faites.
Parfait.
J'ai lu des choses, j'y suis allée à Pointe-à-Calière, mais je ne savais même pas tout ça. Wow.
Oui, on peut pas tout dire dans nos expositions, alors c'est pour ça qu'on essaie de trouver d'autres moyens de communiquer avec les différents publics, effectivement.
Ça, c'est passionnant de travailler là-bas.
Oui, c'est riche. Je peux pas. On a des expositions permanentes très, très, très riches, et en plus, on a nos expositions temporaires, donc ça varie beaucoup.
Eh ben, on fait une petite pause musicale, puis on revient tout de suite en parler. Alors là, on va partir en musique avec Fred Pellerin, qui nous chante le musée du jamais vu.
Toi. 1, 2, 1, 2, 3. C'est le que c'est ça, c'est le musée. Mais c'est le pourquoi que c'est ça, c'est pour le jamais vu. Ah ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. Y a le fossile d'une belle femme avec la queue d'un poisson. Y a un cheval à talons hauts qui trotte et puis qui trotte à reculons. Y a une paire de siamoises qui veut pas décoller. Une qui fume et puis l'autre qui passe son temps à tousser. C'est le que c'est ça, c'est le musée, c'est le pourquoi donc. Jamais vu, ah ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. Y'a un bessec à pédale pour rouler sur des œufs à la coque. Y'a une machine pour exaucer tous les vœux qui disloquent. Y'a le squelette au complet de l'homme à rayon X. Le bouchon pour le drain de l'océan Atlantique. une pelle à deux manches pour les travaux forçants. Il y a un arbre à éléphant, il y a un cyclope qui louche, ben voyons donc, des lunettes pour les mouches. C'est le zig, c'est ça, c'est le musée de la Bretagne. Pour le jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. Ça tient sous des cloches de verre, dans des bouteilles d'informel. C'est piqué sur des panneaux de Liège, ça nous demande qu'à y croire. Il y a l'aurore boréale, il y a un collier de rire, il y a une balayeuse qui danse dans la poussière d'avenir. Des longs rubans de temps, des enfants de mille ans. Une cage sans barreaux, avec la liberté dedans. C'est le musée, c'est ça, c'est le musée, c'est le quoi, c'est un beau jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. C'est le musée, c'est ça, c'est le musée, c'est le quoi, c'est un beau jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. C'est le zig, c'est ça, c'est le musée, c'est le quoi, c'est ça, c'est le jamais vu. Ah ben ouais, on danse, c'est le musée du jamais vu.
Eh bien, nous revoici alors avec Marie-Josée Robitaille. Marie-Josée, on parle un peu des Pointe-à-Calière, découvertes historiques, archéologiques, tout ce qui s'est fait aussi, des expos.
Oui, certainement. Alors, on fête notre 30e anniversaire cette année. 30 ans, c'est à la fois jeune, mais en même temps un bel âge. Hein. On dit que c'est la maturité quand même à la 30 ans. Donc, effectivement, le musée est né pour le 350e anniversaire, donc en 1992. Alors, c'est un petit peu une occasion pour nous cette année de faire un retour sur notre passé, sur notre présent et voir vers l'avenir. Donc, c'est l'idée qu'on a eue, en fait, de faire cette petite publication dont vous faites mention, qui se retrouve en version numérique sur notre site Internet. Alors, on a recensé 30 événements historiques de 1992. Un petit clin d'œil, vous savez, pour voir où étions-nous en 1992,
oui.
Qu'est-ce qu'on écoutait, qui était la vedette, etc. Évidemment, c'est Céline, mais bien d'autres également. Oui. Nous avons aussi recensé 30 événements historiques qui précèdent, dans le fond, la fondation du musée, donc qui a été préparé par l'historien Mario Robert de la Société historique de Montréal. Donc, on a choisi, dans le fond, 30 événements, 30 jalons, je dirais, qui marquent l'évolution de la ville depuis les premières occupations autochtones jusqu'au 350e anniversaire de Montréal en 2017.
Je vous coupe, mais je vois dans ces grands moments-là l'inauguration du parc du Mont-Royal en 1822-1903. C'est bien que les travaux d'aménagement de l'architecte paysagiste Frédéric Law Olmsted ne soient pas complétés, Montréal procède à l'inauguration de son premier grand espace public urbain. 1822, c'est le 1876.
Exact.
1876. Je parle à mon chroniqueur Mathieu Tessier qui est avec nous en studio et qui me regarde avec de grands yeux. Je dis, tu te rends compte? C'est magnifique.
Mais vous savez que l'architecte paysagiste Frédéric Law Olmsted a fait un autre parc qui est très, très, très célèbre. C'est Central Park. C'est Central Park à New York. C'est le même architecte paysagiste.
Ah oui?
Tout à fait.
Oui. Je lisais ça, je faisais mes calculs, je faisais « Mon Dieu, le nombre d'années que ça fait !» L'inauguration de la place Ville-Marie, c'est mon quartier, ça.
Oui, la place Ville-Marie, qui est quand même un immeuble phare de Montréal, évidemment, à l'époque, c'était on a plus moderne, et même encore aujourd'hui, parce que sa forme cruciforme donne aux espaces à bureaux beaucoup de fenestration, vous savez, c'est pas une tour carrée. Donc, c'est un événement marquant quand même que l'inauguration de cette tour.
Mais oui, Puis dans les découvertes historiques et archéologiques, bon, il y en a tout plein, c'est hyper passionnant à lire. Mais là, j'aime bien celle-ci, là, l'histoire du puits sans fond. Un puits qui est visible au fort de Ville-Marie qui aurait été creusé par Jacques Archambault en 1658, parce que 1658, je trouve que c'est pas assez puissant. 1658, et bien qu'il ait été en partie fouillé, qu'on y ait effectué un forage, le fond n'a jamais été atteint par les archéologues.
Exact.
Ça me fascine, on croirait une histoire, on croirait un film.
Wow. Mais vous savez qu'il y a une représentation du puits qui a été fait par la ville de Montréal, qui se trouve sur la place d'Armes, en fait, sur le terrain du musée. Et il y a une inscription, Jacques Archambault, ici a été construit le premier puits de Montréal. Mais en fait, on savait que c'était à peu près là, mais on ne l'avait pas encore trouvé. Ce n'est qu'en 2017, un peu avant, là, tout de même, lorsqu'on a fait les fouilles sur le site du fort de Ville-Marie, en fait, qu'on a découvert éventuellement qu'on était bien sur le site du fort de Ville-Marie, qu'on a trouvé un puits, donc le puits dont vous faites allusion, et on suppose que c'est vraiment le puits de Jacques Archambault, parce que la nature des sols nous permet cette datation-là. Donc, voilà.
Un puits sans fond, c'est un peu compliqué pour aller chercher de l'eau.
Oui.
Ça prend une méchante corde, là.
Ben, on espère que ça ne se rend pas jusqu'en Chine, quand même, mais oui, effectivement. Oui, la nappe phréatique semble un peu loin. Donc voilà.
Et dans ce qui a été mis au jour sur le site de Fort Ville-Marie, il y a une perle du 16e siècle.
Vous faites allusion au cadran solaire?
Non, là je parle.
Oh, la perle.
Ah non, le cadran solaire aussi, ça c'est une autre belle histoire. Une perle du 16e siècle.
Exactement. Donc c'est tout petit, mais c'est premièrement, elle est très belle. Et aussi, on ne savait pas qu'il y en avait aussi ancienne qui circulait sur le site. Oui, une belle surprise.
Ah oui, non, mais il y a des choses, écoutez, puis elle est. Alors, je dis ça pour les auditrices et les auditeurs. Il y a des photos magnifiques là-dedans aussi où on peut voir. Enfin, bref.
Faut feuilleter.
Bref, j'adore. C'est magique.
Merci beaucoup. Donc, comme je disais, sur notre site Internet, sur la page d'accueil, il y a une petite pastille qui marque Montréal, 30 ans d'histoire. Pointe-à-Calière, 30 ans d'histoire. Montréal, c'est donc plutôt 380, n'est-ce pas? Mm-hmm. Dans cette section de notre site Internet, les gens peuvent trouver nos balados, de même que la publication auquel vous faites allusion et d'autres petits événements, un lien vers notre exposition anniversaire, coup de cœur, nos collections s'exposent. Oui. On a ressenti un peu nos activités spéciales pour notre 30e anniversaire.
Alors, Marie-Josée Robitaille, je dois vous dire qu'il ne nous reste que 2 minutes.
D'accord.
J'ai peut-être un petit peu trop parlé, mais
c'est
bon.
Non, mais c'est dur résumé 30 ans.
c'est difficile de faire aussi court. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a comme expo à aller voir là tout de suite?
Bon, premièrement, celle dont je viens de parler, c'est coup de cœur, nos collections s'exposent, c'est dans notre petite salle, dans le bâtiment principal. Dans le fond, on a sorti 400 objets de nos collections pour relater l'histoire de Montréal en 20 tableaux thématiques. La muséographie est un peu spéciale. C'est comme vraiment assez imagé. On a des tableaux sur les grands magasins, sur le transport, sur les moyens de communication, etc., sur la vie culturelle aussi.
D'accord.
Donc, c'est plein de petites surprises. Et en parallèle, dans la Maison des Marins, dans notre grande salle d'exposition sur 2 niveaux, nous offrons aux visiteurs l'exposition Viking, Dragon des mers du Nord.
Ah oui,
donc,
vrai.
Une magnifique exposition des objets rares qui nous viennent du Musée national du Danemark, avec une scénographie assez grandiose qui intègre des visuels qui ont été créés par Ubisoft Montréal.
Voilà.
Donc, assez immersif comme exposition. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On a un petit carnet famille pour les enfants puissent faire eux-mêmes un petit parcours et trouver des réponses en faisant la visite de l'exposition avec leurs parents.
Ben écoutez, Marie-Josée Robitaille, merci beaucoup en tout cas. Courez, allez-y au musée de Pointe-à-Calière et puis retournez-y parce qu'il y a tellement de choses à voir. C'est magnifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Excusez-nous pour ce moment un peu trop court, mais voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à aller au musée Pointe-à-Calière pour aller voir.
Parfait, merci beaucoup.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir.
On part avec Israël Proulx qui nous chante « Perdu dans Montréal ».
Dieu donnait vie dans les montagnes. Son fils est parti pour Montréal.
le sang de son sang à la ville est parti. Na 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 na, perdu dans Montréal. Na 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 na, il oublie les montagnes. Na 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 na, perdu dans Montréal. Na 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 na, il oublie toute sa vie. Fort Mustang, rue Saint-Laurent, il regarde passer les gens. Bric-à-brac, il veut tout faire. Quand soudain, il pense à son vieux père. Na 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 na, perdu dans Montréal. Na 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 na, il oublie les montagnes. Na 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 na, perdu dans Montréal. Na 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 na, il que lui. Un jour Montréal aura grandi. Na 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 na, perdu dans Montréal. Na 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 na, il oublie les montagnes. Na 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 na, perdu.
Vous avez aimé être dans l'histoire? Eh bien, on continue avec Mathieu Tessier dans un instant pour sa chronique « La toponymie d'un accentué ». De quel endroit va-t-il nous parler? Surprise! Restez avec nous, à tout de suite!
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Elle est de la race des femelles. Elle est du cercle. Carré, non. Comme la lune, elle resplendit, Chouka. Même le jour, mon soleil, comment Dieu a-t-il pu créer une eau si jolie que tu? Miel, yeah. Et quand je la lèche, je suis le roi des abeilles. Bien sûr, c'est une sorcière bleue, une acrobate, un médium. Comment Dieu a-t-il pu créer une eau si jolie créature? Comment Dieu a-t-il pu?
D'entendre Arthur H qui nous chantait Ma sorcière bleue. Est-ce qu'on va parler de sorcière, Mathieu?
Absolument
Est-ce
pas.
Est-ce que tu vas parler de sorcière?
Non, mais il y a du bleu. Il y a du bleu dans la bête que nous allons, espérons,
alors,
peut-être
nous,
allons-nous
nous
la voir. Je pense qu'on s'est... Ben, en fait, je regarde autour de moi, je pense qu'on s'est tous remis de notre dernière aventure
oui.
à la croix maudite de Kosabskal. Même si je pense que certains ont peut-être perdu le goût de manger du poulet, je suis content de voir qu'il n'y aura pas trop d'effets secondaires, du moins, ben, je ne le souhaite. C'est donc dire qu'on est prêt à reprendre la route. Si on est prêt et on est d'accord, défaisons notre chemin, comme on dit dans le coin, pour retourner au quai, rembarquer sur notre bateau et voguer sur le fleuve parce qu'on remonte le fleuve Saint-Laurent.
D'accord.
À bord de notre fiefé, oui, je sais, c'est un bateau loué. C'est pas moi qui ai choisi le nom du bateau. Je suis vraiment désolé. Je disais qu'on vogue à toute voile dehors et on descend, ou plutôt on remonte le fleuve puisqu'on va à contre-courant. Notre destination, roulement de bateau, roulement de vagues. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai cru
peur.
Voir...
Il m'a fait peur. Il regarde derrière moi, mesdames, messieurs. Il faut savoir que derrière moi, il y a un tapis. Alors, je dis, mince, il y a un tapis au mur. Qu'est-ce qui se passe? Il a bougé, il y a quelqu'un?
Non, c'est parce que j'ai cru voir quelque chose à tribord, là, à notre droite. non, monsieur, pas notre droite. Là, vous nous faites face, donc ça va être votre gauche, mais à la droite du bateau, à tribord. En tout cas, poursuivons. À votre droite, donc, on peut voir Papinouchois, Colombier, Forestville, Port-Neuf-sur-Mer, Pointe-à-Bois-Vert et Longue-Rive. Et à votre gauche, toujours en remontant le fleuve, en partant de Matane. Ah, voilà. À gauche, parce que le monsieur s'est retourné, donc c'est, tout le monde est à gauche maintenant, on a Saint-Ulric, Baie-des-Sables, Mont-Joli, Sainte-Luce et Rimouski. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps ou qu'on soit pressé par la marée, parce que j'aurais bien aimé qu'on s'arrête à Rimouski, à la brasserie L'Octant ou encore Le Bien et le Mal.
Le bien et le mal. J'adore le titre.
C'est une forte, sympathique place où vous pouvez vous arrêter à Rimouski. Mais non, on se rapproche donc de la rive nord. Non, madame, on ne s'arrêtera pas aux Escoumins, ni aux Grandes Bergeronnes, ni même à Tadoussac. Je sais, je suis un capitaine cruel. mais on va remonter la rivière Saguenay qu'on appelle le fjord du Saguenay.
Oui.
Et là, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir ouvrir grand vos yeux, puisque la légende d'aujourd'hui concerne bien la région, j'ai nommé Saguenay, que nous avons visité tout de même moult fois. Remarquez ici comment la nature est belle et surtout bien protégée. Les habitants de Baie-Sainte-Catherine, de Sacré-Cœur, de la Coulée, du Petit Saguenay, mais aussi ceux de Lance, de Roche, de Saint-Étienne, et du sympathique village du Tableau, savent que cette région, tout en étant belle et luxuriante, est sous l'emprise d'une bête hargneuse, voire même très agressive. Ils savent aussi qu'il faut tout de même remonter un peu plus loin dans le fjord pour peut-être croiser le cochon bleu du Saguenay.
Le cochon bleu?
Le cochon bleu du Saguenay. Et là, avant de commencer à vous en parler, j'ai fait une petite recherche pour être sûr que c'était approprié pour tout âge. On parle bien de l'animal et non pas...
D'un homme,
voilà. C'est ainsi qu'après avoir croisé Notre-Dame du Saguenay, Sainte-Rose du Nord, l'abbé et le petit Glaude, non, c'est pas vous, monsieur, évidemment, c'est, donc retournez à l'arrière là, pour vider votre estomac de toutes les godilles que vous avez avalées. On a croisé aussi Sainte-Fulgence, Valin et Canton-Tremblay. On arrive finalement à Saguenay et à l'embouchure de la rivière Chicoutimi que nous allons remonter en bateau. Puisque, selon les nombreuses sources de la région, cette créature fantastique de couleur bleue rôderait toujours dans les environs de la rivière Chicoutimi, non loin de son principal réservoir, le lac Kénogami. Alors, le cochon bleu du Saguenay, bleu de par son apparente couleur, et cochon, parce que semble-t-il qu'elle ressemble à un cochon. Permettez donc de transférer ma lecture pour les prochaines lignes vers la source dans laquelle j'ai trouvé cette histoire. Il s'agit encore du livre de Brian Perrault, Créatures fantastiques du Québec. On y dit dans le livre que le dernier homme à avoir vraisemblablement aperçu la bête aurait affirmé au moment de rendre l'âme, parce que les gens racontent toujours leur histoire au moment de rendre l'âme, être jadis monté dans ce coin de pays pour y rejoindre un ami trappeur avec qui il avait rendez-vous. Le mois d'octobre tirait à sa fin et les chemins forestiers étaient gelés depuis peu. Un temps donc propice pour installer des pièges, avait-il songé? Une fois parvenu à la cabane de son compagnon, il s'étonna que personne ne s'y trouvait pour l'y accueillir. Il n'y avait même pas un mot d'explication sur la porte. En faisant le tour du refuge, son regard est attiré par d'étranges traces sur le sol durci. Jamais il n'avait vu de telles traces auparavant. Et tandis qu'il les examinait, il fut surpris par des grognements sourds émanant de la forêt obscure.
Sapristi, ça fait peur.
Il en fallait pas plus davantage pour qu'il enfourche son cheval pour fuir cet endroit si peu rassurant, comme on l'écrit. Il aurait été alors pris en chasse par une créature qui, outre son épiderme bleu et son museau effilé, avait l'aspect d'un cochon. Le stupéfiant, c'est bien écrit comme ça, mammifère était au moins aussi rapide que le cheval. Et si notre homme n'avait pas eu la présence d'esprit de laisser tomber derrière lui un des pièges qu'il avait heureusement armé avant de le laisser tomber, eh bien je ne pense pas que cet homme aurait raconté cette mésaventure puisqu'il aurait probablement été mangé. Selon lui, la trappe se serait refermée sur l'une des pattes de la créature qui cessa sa course dans un effroyable cri de douleur que l'on peut encore entendre aujourd'hui. C'est ainsi que l'homme aurait eu la vie sauve, contrairement à son ami trappeur qui, lui, n'a jamais été revu. Or, en l'an 1822, tout près du lieu de l'apparition du cochon bleu, un bateau aurait fait naufrage alors qu'il remontait, mon Dieu, mais comme nous, remontait la rivière à la recherche d'un endroit pour se cacher et trouver une éventuelle cachette pour une importante somme d'or qu'ils auraient dérobée dans un établissement bancaire à Montréal, à Québec.
Ah, le produit d'un vol, alors.
Exact. L'avarice aurait divisé l'équipage en deux clans qui s'entre-déchirèrent. Les derniers survivants seraient apparemment morts de froid en emportant avec eux le secret de l'emplacement du butin. Donc, non seulement y a-t-il une bête féroce dans ce coin-là, mais il y aurait un trésor. Avant de mourir, l'un d'eux aurait hurlé qu'aucun homme ne mettrait jamais la main sur son bien. Donc, d'aucuns racontent aujourd'hui que le cochon serait l'incarnation de la haine et du désespoir de ce défunt qu'il rôderait toujours depuis ce jour dans les grandes forêts au sud du lac Kénogami pour veiller à ce que personne ne touche à son trésor caché. Une autre victime du cochon bleu du Saguenay. Si jamais vous allez dans le coin...
Mais personne ne l'a jamais vu en vrai.
Outre cet homme qui s'est sauvé à cheval.
Mais s'il avait fait un piège, on aurait retrouvé la bête.
Mais c'en était... Oui, mais une bête peut se manger sa propre patte pour se sauver. Donc, non seulement c'est un cochon bleu, mais il a trois pattes. Écoutez, je ne sais pas.
Je trouve ça super, super passionnant. En même temps, bleu, quel bleu? Je ne crois pas que ça existe. C'est incroyable.
Avez-vous acheté à Saguenay votre chandail?
Non, pas du tout, mon cher Mathieu. Et c'est pas la bête qui me l'a vendu non plus. Oh là là, ça fait peur. On fait une pause musicale?
On fait une pause, bien sûr.
Alors, on part avec Danny Placard qui nous chante Sleeping Gag. Bag, Sleeping Bag. Je voyais Gag parce qu'il écrit tellement mal, Mathieu Tessier, mais Sleeping Bag, allons-y.
Je suis bien la tête au fond de mon mais je suis pris au fond d'une poche de coton.
Voilà, bon, ben merci Mathieu Tessier. Hors antenne, j'étais en train de lui poser des questions en me demandant comment on a pu voir cet animal.
Cette couleur
est-ce que
bleue,
c'était
ouais.
cette couleur bleue? Est-ce que c'était la lueur du soleil qui reflétait sur quelque chose? Enfin,
mais la nuit, tous les chats sont bleus.
Sont c'est gris, d'après l'histoire, mais c'est vrai qu'on peut imaginer n'importe quoi avec les lumières, les feuilles, puis la peur, l'imaginaire aussi, l'imaginaire. Enfin, c'est très chouette. J'adore quand tu nous racontes des histoires.
Ça fait plaisir.
Mathieu, là, on passe au jeu.
Aux expressions, exact.
Aux expressions.
Tout le monde est prêt. Tout le monde a son crayon.
Allez, on y va.
Avoir l'expression, c'est pas ça du tout. L'expression, avoir une crotte sur le cœur.
Une crotte sur le cœur. J'ai ouais. une petite idée de ce que ça pourrait vouloir dire.
Est-ce que c'est A? Ne pas pouvoir faire la différence entre un tatou de René Lévesque et une cicatrice qui ressemble à Raymond Lévesque. Avoir une crotte sur le cœur, en vouloir tellement à quelqu'un qu'on en devient amer comme une tarte au houblon ou désagréable comme une flaque d'eau froide quand on se rend à la salle de bain entre deux sommeils. Ou une prise de lutte qui te fait t'asseoir sur la poitrine de ton adversaire jusqu'à ce qu'il devienne vert comme une vessie de crevette.
Mais c'est la deux.
Ah, mais t'es bonne. Bon, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave.
En même temps, je reste très admirative de toutes les réponses que tu nous donnes, Mathieu. Sois-en certain.
C'est des heures d'insomnie. Une autre expression, avoir un air de bœuf.
Oui.
Est-ce que c'est le fait d'être d'une humeur exécrable, mauvaise, qui te donne l'air d'un ruminant? Ou c'est le fait d'avoir l'heure et de décider d'arriver tout de même en retard? Ou c'est le fait d'avoir une haleine qui te décompose tes relations sociales en un temps?
Elle a une?
Ouais, c'était facile, celle-là.
C'était facile.
Parce qu'on connaît tous quelqu'un dans les deux autres situations.
Oui, mais en même temps, un nerf de bœuf, mais le nerf, N-E-R-F, c'est aussi un...
Ah oui, pas une matraque, mais un gourdin.
Oui, ça peut faire très, très mal, quelqu'un qui nous attaque. Alors ensuite...
Oui, avoir une patate chaude dans la bouche.
Oui.
L'expression « avoir une patate chaude dans la bouche ». Et c'est d'avoir tellement envie d'aller aux toilettes que t'as l'impression que si t'attends encore un petit peu, tout va te sortir par les oreilles. Avoir une patate chaude dans la bouche et décider de répondre aux questions d'une demande d'emploi sans utiliser de voyelles ni de consonnes. Ce qui donne l'impression au futur employeur que tu tiens tellement à cet emploi que t'es allé au dentiste juste avant ton rendez-vous et que vous avez encore la bouche sous anesthésie locale. Avoir une patate chaude dans la bouche, c'est la sensation que... Quand tu embrasses ton amoureux ou ton amoureuse pour la première fois et qu'il ou elle utilise autre chose que ses lèvres.
Non, c'est la deux.
Ils sont quand même assez drôles aujourd'hui, mais
faciles,
je dirais.
Ils sont faciles, mais drôles. Bon, moi, je vais prendre ça. Je préfère ça que difficile.
On va pas... tu sais que je vais te faire la blague. C'est pas du tout une réflexion hautaine, loin de là. Mais tu sais que quand on n'amène rien au dentiste, hein, parce qu'on mène la vache au taureau, mais on va chez le dentiste. Est-ce que j'en viens? Donc, je peux le confirmer.
Décidément, t'as pas eu... Non, clairement, t'as pas eu une anesthésie locale. Ou du moins, ils t'ont piqué ailleurs, puis ça paraît pas. T'aurais pu me raconter, parce que la prochaine expression, avoir une poignée dans le dos.
Ah oui, oui.
Est-ce que c'est quand...
J'ai entendu l'expression « j'ai-tu une poignée dans le dos? »
Exact. Voilà. Est-ce que ça veut dire c'est quand le poil qui te pousse dans le dos est tellement long que t'es capable de te faire une tresse? Non, d'accord. C'est le sentiment que l'on ressent lorsque certaines personnes te parlent, lorsqu'elles te prennent pour une personne qui ne comprend rien du tout, du moins qui te trouve crédule. Ou c'est l'expression qui exprime le mieux le fait qu'un transport en commun est tellement plein qu'on a parfois l'impression qu'on est tous devenus des membres de la même famille tellement on est collés.
C'est la 2.
Ben, je dis ça, mais ça fait des années que... En fait, je pense avec toi, la dernière fois que j'ai pris le transport en commun, j'étais un peu déçu, il y avait moins de monde que dans mon souvenir.
C'est la 2.
Exactement.
Le c'est mot, ça, j'ai eu une poignée dans le dos.
J'ai eu une poignée dans le dos, moi j'avais mis
Je dirais, tu me prends pour une...
Prends pour une valise.
Ou des mots encore plus grossiers, mais voilà.
Vous êtes comme ça, vous. Le mot babine.
Oui?
Est-ce que ce sont les parties charnues qui constituent la cloison antérieure de la bouche chez de nombreux animaux? Ou est-ce la femelle du babouin lorsque ce babouin est en captivité dans un zoo municipal? Et non! Lorsque ce babouin est en captivité dans un zoo municipal et non dans un zoo privé? Ou une autre façon polie d'appeler les parties charnues qui constituent le siège permanent et portable chez de nombreux animaux, autrement dit les fesses?
La une.
Bon, décidément, une dernière, je ne sais pas, on est rendu à combien?
Oui, on a le temps.
D'accord, brailler, comme dans brailler plus fort. Non, d'accord.
Brailler, oui.
Ouais. Est-ce que c'est l'acte de rendre toute littérature visible par le fameux système de sonographie inventé par un jeune français âgé de moins de 18 ans, j'ai nommé Louis Braille? Ou est-ce lorsque tous les fluides et autres matières liquides vous sortent du corps, décidément j'avais un thème, et particulièrement par les yeux parce que vous êtes triste? Ou c'est le nom donné à l'espace vide créé par l'ouverture d'une porte lorsqu'on épie quelqu'un qui a préalablement bouché le trou de la serrure avec des mouchoirs?
C'est la 2. Mais bravo pour la recherche.
J'aimais beaucoup la 1. J'aimais beaucoup la 1.
C'est vrai?
Oui, je l'ai beaucoup.
D'accord.
Ben, j'y ai pensé et j'ai dit, j'espère qu'il va en faire référence.
J'ai essayé.
Une petite dernière.
Oui, tu branles dans le manche. Est-ce que c'est... En fait, ça devrait... Devinez. Ça viendrait du bruit incongru qui s'entend lorsqu'on agite un objet pouvant contenir quelque chose, nous indiquant que le contenant n'est pas vide. Ou est-ce tergiverser, faire l'arc-en-ciel ou ne pas pouvoir prendre une décision? Vais-je au cinéma ou vais-je refaire mon devoir conjugal? Ou ramasser les feuilles des arbres sur le terrain d'une voisine qui nous est inconnue en plein mois de juin et retourner toutes les feuilles une fois l'hiver arrivé?
Alors, c'est la 2 et je trouve que t'as très souvent mis la réponse dans la 2. Tu regarderas.
C'est vrai. Ben, des fois j'alterne parce qu'on me disait toujours que je les mettais dans le 3. Là, voilà.
Ben là, il y a eu beaucoup la 2, mais c'est la 2. Je crois bien que j'ai fait un sans faute.
Je ne sais plus, Jean-Sébastien, c'est laquelle?
J'ai fait un sans faute. Jean-Sébastien, c'est ça?
C'est la 2.
Je voulais juste faire parler Jean-Sébastien au micro. Vous avez tous gagné.
Le passage du chef des chefs des chefs. On dit bonjour, chef. Comment on fait pour devenir chef?
On vient de perdre Arlette, là.
Phrase tirée d'un célèbre film. La 7e compagnie. Ça te dit rien?
Non, pas du tout.
Voilà. Voilà, bon, bah, c'était juste pour dire une phrase stupide à la fin. On a le temps d'une encore? On a le temps d'une.
OK. Ça me bouillonne dans le fond de la flûte.
J'ai un petit peu peur. Vas-y, assieds-toi, Jean-Sébastien.
Oui, d'autres vont dire avoir un chat dans la gorge. Certains diront donner sa langue au chat. Et plusieurs l'affirment en scandant « Ton chat est mort, mais j'ai récupéré les boules de poils qu'il a régurgitées sur ton oreiller et j'ai rembourré la tablette du haut dans le congélateur. » Ou c'est B, faire de l'insomnie parce que tu peux pas dormir ou que tu ne peux dormir que sur le dos. Ou avoir les os de Versailles qui veulent te sortir du corps, autrement dit, aller aux toilettes.
Je me rappelle même pas l'expression, c'est quoi?
Ça me bouillonne dans le fond de la flûte.
La 2 encore. Mmh. Oh, c'est la 3?
Moi, je vais répondre 3, mais mention spéciale pour les boules de poils.
Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais.
Ben, c'est la 3.
Il y en a des fois, tu sais, que je préfère dans les réponses, que je trouve la réponse tellement plus drôle que la vraie vérité, c'est mieux.
Ben, c'est tout ce que j'avais.
Tu t'es fendu, Mathieu. Bravo.
Je me suis fendu.
Jean-Sébastien, tu es venu pour faire éclater la vérité de la dernière.
Moi... Je suis venu pour avoir un score parfait.
Une réponse. Il y a des yeux de lynx. Tu peux voir que... Parce que moi-même, je mets les réponses en caractère gras parce que moi-même, des fois, j'ai écrit ça tard le soir.
Il est tellement parti sur des explications complètement dingo qu'il ne sait même plus où est la réponse.
Qu'est-ce que j'ai dit?
De la noter.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Eh bien, nous partons en musique. Nicolas? Eh ben tiens, vas-y, annonce-la, tiens, ta chanson.
Ah tiens, est-ce que ça serait un titre en anglais?
Ça s'appelle World Smallest Violin. Ça parle un peu d'histoire, mais c'est une chanson très populaire de ma génération. Donc, je vous la laisse.
Ah ben ça veut dire que nous, on l'est pas. Dégage, Nicolas.
Ça fait plaisir.
On verra si on la connaît. On...
He was such a noble dude. I can't even finish school. Missed my mom and left too soon. His dad was a fireman who fought fire so violent. I think I bored my therapist while playing him my violin.
Oh my god,
that's so insane.
Oh my god,
that's such a shame. Next to them my shit don't feel so grand. But I can't help myself from feeling bad. I kind of feel like two things can be said. Someone's got it worse. Wish that made it easier. Wish I didn't feel the hurt. The world's smallest violin really needs an audience. So if I do not find somebody soon, I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease. Like finishing this melody, this feels like a necessity. So this could be the death of me, or maybe just a better me. Now come in with the timpanis and take a shot of Hennessy. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy. So
Bah, tu sais que c'est très sympa, Nicolas. Je te verrais bien chanter ça.
Ah, eh bien,
c'est bien c'est bien le genre de chanson que
j'ai choisi cette chanson-là parce qu'il y avait multiples instruments que je sais que toi, Arlette, tu aimes beaucoup.
J'aime ça. Mais j'aime ça vraiment. Merci pour la découverte.
Oui, je confirme qu'on n'est pas de la même génération parce que j'avais aucune idée de ce qui se passait dans mes oreilles. J'ai beaucoup aimé.
Toi aussi, tu vois. Donc, on aime, on accepte. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Alors, on dit merci à Marie-Josée Robitaille. Et puis surtout, allez au musée Pointe-à-Calière. Allez-y, allez-y, profitez-en. Et puis écoutez les balados, c'est super. Merci Mathieu Tessier pour toutes tes histoires.
Ça fait plaisir.
Merci Nicolas Wartmann pour la technique et les chansons.
Merci
bien sûr à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée. Et puis on se dit à demain.
Tchuss.
À demain, Nicolas. Bah, toi, à la semaine prochaine, Mathieu.
Oui.
Bye bye.